Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce samedi 2 juillet 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Au moins 5 morts dans un séisme de magnitude 6,1 dans le sud de l'Iran. Un méga navire explose à Dubaï, Mali, Guinée, Burkina. Les sanctions au menu du sommet de la CEDEAO. C'était les principaux titres. En voici le journal. Au moins 5 personnes ont été tuées et 44 autres blessées dans un séisme de magnitude 6,1 survenu samedi matin 2 juillet dans la province iranienne de Hormozgan dans le sud de l'Iran. L'épicentre du séisme a été localisé près de la ville portuaire de Bandar Khamir, près du golfe Persique. Des maisons ont été détruites ou endommagées dans les villages affectés. L'ambassade de Russie à Vienne a annoncé vendredi soir, 1er juillet, la visite du négociateur en chef nucléaire de l'Iran à Moscou et sa rencontre avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Dans un message publié sur sa page Twitter, l'ambassade de Russie à Vienne a annoncé la rencontre entre le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, et le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Bareilly Kani, négociateur en chef de la République islamique d'Iran dans les pourparlers nucléaires. Mikhail Ulyanov, le représentant de la Russie auprès des organisations internationales basées à Vienne, était également présent à cette réunion, selon le message. Mikhail Ulyanov a écrit « C'était une discussion très professionnelle sur l'état actuel du plan global d'action conjoint. Mon évaluation est qu'en dépit de tous les problèmes, l'accord nucléaire peut encore être relancé. Pour ce faire, les États-Unis doivent faire preuve de plus de flexibilité. Des négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis ont eu lieu cette semaine à Doha, au Qatar, avec la participation du principal négociateur iranien Ali Bareilly Kani, le secrétaire général adjoint du service d'action étrangère de l'Union européenne, Enrique Mora, et le représentant spécial américain, Robert Malley. À l'issue des discussions, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a noté que le principal négociateur iranien poursuivait sérieusement ses négociations logiques, raisonnables et dynamiques et en parfaite coordination avec lui en vue de la levée des sanctions anti-iraniennes. Les médias yéménites ont rapporté vendredi 1er juillet un incendie sur un navire transportant des voitures dans le port de Dubaï, aux Émirats arabes unis. C'est comme en janvier dernier, lorsqu'un Sarala avait ciblé le port émirati avec ses combinaisons missiles-drones. Le directeur du port de Nishtun au Yémen, Saïd Kris, a déclaré au site Al-Mastar Online qu'un navire transportant des voitures nommé Moyeddin, appartenant à un homme d'affaires indien, a pris feu dans le port de Dubaï. Selon le rapport, les voitures du navire appartenaient à Saas Abad al-Jadai, un homme d'affaires de la province yéménite de Maha. Selon le responsable du port de Nishtun, le navire était en route vers ce port de l'est du Yémen lorsqu'il a pris feu. Concernant la cause de cet incident, certaines sources disent que le navire avait pris feu mercredi en raison de la dégradation des connexions électriques. en Irak. Après le Schlumberger, c'est au tour d'autres compagnies pétrolières sionistes de fuir. Les médias irakiens ont rapporté que suite à l'ordre du ministère irakien du pétrole, trois grandes compagnies pétrolières américaines avaient quitté la région du Kurdistan irakien et que cette mesure avait mis les relations entre Bagdad et Erbil en veilleuse. Le ministère irakien du pétrole a récemment fixé un délai de 3 mois dans un message adressé à la compagnie pétrolière nationale du pays et a averti tous les entrepreneurs opérant en Irak de conclure leur contrat avec le Kurdistan irakien avant la fin de la période annoncée. Selon les médias irakiens, le ministère du pétrole a prévenu qu'il mettrait sur liste noire les entreprises coupables qui n'obéiraient pas à cet ordre. Des sources irakiennes ont récemment rapporté qu'à la suite de la publication de cet ordre ministériel, les trois principales compagnies pétrolières américaines, Baker Hughes, Schlumberger et Halliburton, ont cessé leurs activités dans la région du Kurdistan irakien qu'ils ont quitté aussitôt. Le mouvement de la résistance islamique Hamas a salué vendredi un rapport de l'ONU appelant à la cessation immédiate du blocus imposé par Israël autour de la bande de Gaza depuis 2007. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA, a en effet indiqué jeudi 30 juin que la situation dans la bande de Gaza est catastrophique en raison du siège imposé à l'enclave côtière depuis 15 ans. Le siège israélien a rendu les taux de pauvreté et de chômage les plus élevés du monde, détruit l'économie, écrasé une grande partie des Palestiniens et les a rendus dépendants de l'aide internationale à plus de 50%, selon le rapport. Il devrait être complètement levé, conformément à la résolution 1860 du Conseil de sécurité des Nations Unies, a demandé l'OCHA. Le rapport appelle à la levée immédiate du siège israélien en levant toutes les restrictions compromettant l'économie palestinienne et en rouvrant et construisant les usines détruites au cours des conflits. Le taux d'inflation dans la zone euro a fait un bond et atteint un nouveau record en juin. Les prix à la consommation au cours de ce mois s'élevant à 8,6% par rapport à l'année précédente, selon les chiffres publiés vendredi par Eurostat, l'Office de statistiques de l'Union européenne. Eurostat a rapporté que l'augmentation des prix à la consommation dans les 19 pays utilisant l'euro comme devise avait encore augmenté depuis le précédent record de 8,1% enregistré en mai. L'inflation de l'euro est à son plus haut niveau depuis la création de cette statistique en 1997. Ce bond a été entraîné principalement par l'envolée des prix de l'alimentation et de l'énergie en conséquence du conflit russo-ukrainien et des menaces sur l'approvisionnement en gaz qui continuent de faire grimper les factures. Près de la moitié des 19 pays de la zone euro ont enregistré une inflation à 2 chiffres, selon ces statistiques. Les dirigeants de la CEDEAO vont se réunir lors d'un sommet très attendu, dimanche 3 juillet à Accra, au Ghana. Ils doivent statuer sur les sanctions concernant le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, 3 pays théâtres de coups d'État. Les leaders ouest-africains vont se pencher sur les vigoureuses mesures de rétorsion commerciale et financière infligées au Mali depuis janvier et sur celles moins lourdes imposées au Burkina Faso et à la Guinée. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest entend peser pour un retour rapide des civils au pouvoir. Le Mali, exsangu d'un conflit qui dure depuis plus d'une décennie, est confronté à un embargo sur les transactions commerciales et financières, hors produits de première nécessité. Le Burkina Faso, autre pays sahélien pris dans la tourmente, et la Guinée ne sont pour l'heure que suspendus des organes de la CEDEAO. Le Burkina Faso, autre pays sahélien pris dans la tourmente extrémiste, et la Guinée ne sont pour l'heure que suspendus des organes de la CEDEAO. Mais les juntes en place entendent y rester 3 ans et exposent leur pays à un durcissement des sanctions. D'après négociations sont en cours depuis des mois entre la junte militaire au Mali et la CEDEAO. Elles n'ont jusque-là pas abouti à un compromis. Le dernier sommet, le 4 juin, a ainsi accouché d'une souris. Aucune décision n'a été prise sur les sanctions à l'encontre des régimes putschistes. La CEDEAO s'est donné 1 mois de plus pour négocier et s'entendre sur une levée ou un maintien des sanctions. 10 migrants clandestins ont été retrouvés morts cette semaine en plein désert nigérien, à proximité de Dirkou, dans la région d'Agadez, nord du Niger, proche de la Libye, par une patrouille militaire, a déclaré l'armée nigérienne dans son bulletin hebdomadaire d'information paru jeudi à Niamey. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Les bio-armes d'Israël au Maroc. Après avoir installé une base militaire, une usine de drones et une plateforme pétrolière au Sahara, et des sites à Dakhla, et tout cela en avalant les renseignements marocains et en les transformant en filiales du Mossad, l'entité sioniste serait-elle sur le point d'installer des laboratoires biologiques au Maroc ? Notons qu'une telle perspective s'inscrit parfaitement dans les plans US-Israël pour le Maghreb. Le ministère marocain de la Santé a signé jeudi 30 juin un protocole d'accord avec le groupe israélien IMS pour la construction de plusieurs hôpitaux. L'entité sioniste va construire des hôpitaux au Maroc. Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, a présidé ce jeudi matin à Rabat la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre son département et le groupe sioniste IMS pour la construction d'hôpitaux au Maroc. Les médias marocains précisent. Cet accord s'inscrit également dans le cadre du renseignement de la coopération bilatérale entre le Royaume et l'entité sioniste concernant la promotion de l'investissement et de l'innovation dans de nombreux domaines, dont le secteur de la santé au Maroc. Et ses médias d'ajouter. L'accord s'inscrit dans le cadre du partenariat entre les secteurs publics et privés et vise également à mettre en œuvre un programme d'investissement qui concerne la conception, la construction et l'équipement de certains hôpitaux avec une contribution financière du groupe IMS estimée à 5 milliards de dirhams. La première phase de ce programme d'investissement prévoit la construction de 5 hôpitaux d'une capacité d'environ 1000 lits dans les régions de Dakhla, Oued et Darab, Fès Meknès, Dra Tafil Alet et Marrakech Safi. Mais Israël, qui est à la tête d'un vaste réseau de trafic d'organes, dont le point de départ se trouve à l'intérieur des prisons sionistes, où les prisonniers palestiniens sont victimes des pires tortures, dont le prélèvement d'organes, va-t-il se préoccuper des patients marocains ? Alors, cet énorme investissement n'est-il pas un peu curieux alors que l'Occident patauge contre le Covid et que l'actualité est pleine d'images d'Azovstal de Mariupol en Ukraine avec ses laboratoires de la mort? Dans les années 90, la presse britannique avait déjà levé un coin du voile sur les laboratoires d'armes biologiques ethniques des sionistes. Le Sunday Times de cette époque écrivait Israël travaille sur une arme bactériologique ethnique contenant des micro-organismes génétiquement modifiés qui affecteraient les Arabes, mais pas les Juifs. Les chercheurs israéliens ont essayé d'isoler les gènes distinctifs portés par les Arabes afin de développer un virus, une bactérie qui ciblerait spécifiquement cette population, écrit le journal, citant des sources militaires israéliennes et des services de renseignement occidentaux. Ce programme est basé à l'Institut Nis Ziona, un centre de recherche top secret sur les armes bactériologiques situé au sud de Tel Aviv, estime le journal. La recherche est compliquée par le fait que Juifs et Arabes ont la même origine sémitique. Mais selon un scientifique israélien anonyme cité par le Sunday Times, les responsables du programme ont néanmoins réussi à identifier une caractéristique particulière dans le patrimoine génétique de certaines communautés arabes, les Irakiens en particulier. La maladie pourrait être transmise par voie aérienne ou par voie de contact, précise le Sunday Times. Depuis les années 90, les sionistes ont manifestement progressé et nous craignons qu'ils aient identifié les gènes nord-africains. Après tout, le scénario de la guerre anti-Maghreb via un conflit au Sahara n'a pas fonctionné. Les sionistes pourraient donc être tentés par la bioguerre.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce vendredi 1er juillet 2022. La Russie et la Chine ont fermement réagi à la nouvelle feuille de route stratégique de l'OTAN adoptée à l'occasion du sommet de l'alliance militaire qui s'est achevé hier jeudi à Madrid. Le président russe Vladimir Poutine a fustigé les ambitions impériales de l'alliance militaire qui cherche, selon lui, à affirmer son hégémonie par le conflit, en effet, ukrainien. Le président Poutine a prévenu que la Russie réagirait si l'OTAN venait à déployer ses forces et installer des infrastructures en Suède et en Finlande lorsque les deux pays nordiques auront rejoint l'alliance transatlantique menée par les États-Unis. La Chine a également fustigé les efforts vains de l'OTAN pour la salir et accusé l'alliance militaire d'avoir les mains couvertes de sang. À noter que lors de leur sommet à Madrid, les dirigeants de l'OTAN ont déclaré que les politiques et les liens étroits de Pékin avec la Russie constituaient un défi majeur pour les intérêts et la sécurité de l'alliance militaire. Les pays de l'OTAN ont par ailleurs validé un renforcement de leur présence militaire sur le flanc oriental de l'alliance qui va porter à 300 000 militaires les effectifs de ces forces à haut niveau de préparation. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons revenir sur ce sommet de l'OTAN à Madrid, la réaction de la Russie et de la Chine et bien entendu la perspective des évolutions à venir, notamment sur fond, bien entendu, du conflit ukrainien. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Moscou et Pékin ont fait front commun contre l'Alliance Atlantique dont le sommet s'est achevé jeudi. Les pays leaders de l'OTAN souhaitent affirmer leur hégémonie, leurs ambitions impériales, a fustigé mercredi soir le président russe Vladimir Poutine lors d'un déplacement à Ashgabat, la capitale turkmène. L'appel à l'Ukraine à poursuivre les combats et à refuser les négociations ne fait que confirmer notre hypothèse que l'Ukraine est le bien du peuple ukrainien. Ce n'est pas l'objectif de l'Occident et de l'OTAN, mais un moyen de défendre leurs propres intérêts, a-t-il insisté. Le président russe Vladimir Poutine a par ailleurs affirmé que Moscou n'avait aucun problème avec l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, mais que le Kremlin réagirait avec force si l'alliance militaire occidentale déployait des troupes et des infrastructures dans ce pays une fois qu'il deviendrait membre. Selon Poutine, l'adhésion porterait un coup inévitable aux relations de Moscou avec Helsinki et Stockholm. La Chine a dénoncé jeudi les efforts complètement vains de l'OTAN pour la salir après la publication la veille par l'alliance militaire d'un document présentant Pékin comme une menace pour ses intérêts. Ce prétendu document de concept stratégique de l'OTAN fait peu de cas de la réalité et présente les faits à l'envers, a réagi Zhao Lijian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Il s'obstine à tort à présenter la Chine comme un défi systémique et à salir la politique étrangère chinoise, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse régulière, soulignant la ferme opposition de Pékin. L'OTAN a jugé mercredi que Pékin représentait un défi pour les intérêts et la sécurité des pays de l'Alliance dans sa nouvelle feuille de route adoptée à l'occasion de son sommet de Madrid. L'OTAN dénonce en particulier le partenariat stratégique approfondi entre Pékin et Moscou et leur tentative mutuelle de miner l'ordre international basé sur la règle.
On va tout de suite se rendre à Damas pour rejoindre Maître Arnaud Develay. Maître Develay, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Monsieur Michel.
Alors, le temps fort de l'actualité internationale, ce sont même des pays de l'Alliance transatlantique qui s'est achevée hier à Madrid et l'évolution importante, justement, alors l'adoption de ce nouveau concept stratégique, de cette nouvelle feuille de route stratégique qui qualifie la Russie de menace directe et la Chine de défi pour les intérêts et la sécurité de l'Alliance transatlantique. Dans quelle mesure cette nouvelle feuille de route stratégique de l'OTAN et son approche vis-à-vis de la Russie et de la Chine va en effet modifier la donne géopolitique internationale sur fond de crise ukrainienne?
Écoutez, je dirais à titre préliminaire que le document en question n'est en fait qu'un copier-coller de la posture stratégique adoptée par le Pentagone dès janvier 2021, qui a toujours mis en avant effectivement l'alliance russo-chinoise, soi-disant les puissances révisionnistes, hein, puisque c'est comme ça qu'ils les appellent, comme étant les défis stratégiques des États-Unis. Donc au départ, comme l'OTAN est avant tout les États-Unis au niveau du financement et au niveau de l'équipement et des forces armées sur le papier, ce n'est qu'une transposition quelque part de cette doctrine stratégique du département de la défense US dans un format otanesque. Et donc dans ce contexte-là, c'est une forme de mise à jour, comme vous le dites, sur fond d'élargissement de l'OTAN en Europe, et maintenant c'est officiel à la Suède et à la Finlande. Et dans le contexte asiatique, on notera qu'étaient invités au sommet de l'OTAN à Madrid quatre pays de la sphère asiatique, à savoir donc le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc, on peut voir que l'OTAN avance ses pions. On est maintenant bien au-delà de ce que l'Alliance était supposée être lors de sa création en 1949, une alliance purement défensive, pour être devenue maintenant une espèce d'outil au service de l'hégémonie finissante états-unienne, qui s'efforce par un jeu de contrôle politique de pays dans lesquels ils exercent une certaine influence depuis des décennies, de lier tous ces pays d'une manière ou d'une autre pour les contenir dans un premier temps, les mettre en ordre de bataille, avec cette idée de contenir l'émergence inexorable du compact eurasiatique co-dirigé plus ou moins par Moscou et Pékin.
Merci infiniment pour ces précisions. Maître Develay, rester avec nous. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, c'est un plaisir. Bonjour à vos téléspectateurs et à Maître Develay. Le bloc américain occidental, parce que l'OTAN, ce n'est que ça, ce sont les vassaux des États-Unis réunis dans une alliance qui n'est pas militaire, mais qui est une alliance de vassalisation politique et géopolitique. Et les alliés européens et asiatiques des États-Unis ont fait preuve d'une erreur stratégique majeure. Les Romains appelaient hubris cet excès de confiance qui poussait une partie militaire à s'engager dans le chemin de la défaite. C'est ce qu'ont fait les États-Unis en provoquant une guerre sur deux fronts, à la fois contre la Russie et contre la Chine. On sait que Napoléon a perdu la guerre en Europe lorsqu'il s'est engagé à la fois contre la Grande-Bretagne et contre la Russie. L'Allemagne a perdu la guerre de 1914-18 en en la menant sur deux fronts, Hitler a perdu la guerre en la menant celle de 40-45.
Nous avons visiblement un souci de liaison avec Luc Michel, donc en attendant que notre contact soit rétabli, on va continuer avec Maître Develay. Maître Develay, pour M. Michel, là il s'agit de l'adoption de cette nouvelle feuille de route. S'agit d'une erreur stratégique. Alors Moscou aussi a réagi justement à pointer du doigt l'agressivité de l'OTAN. Alors la question qui se pose, donc là, en toute évidence, il paraît que c'est une déclaration de guerre ouverte, non seulement contre la Russie, mais aussi contre la Chine. Quelles seront les répercussions de cette erreur stratégique des pays membres de l'OTAN, bien entendu menée par les États-Unis?
Oui, j'allais compléter en fait ce que semblait faire allusion à Luc Michel. Effectivement, c'était donc les Grecs, enfin plutôt les Romains, mais les Grecs qui avaient conceptualisé ce concept de hubris, donc cette arrogance complètement disproportionnée. Mais il faut savoir que l'hubris est souvent précède ce qu'on appelle némésis, donc le retour de bâton. Et dans ce contexte-là, effectivement, ces déclarations intempestives, conceptualisées dans des formats où on ne peut plus officiels, ne peuvent être interprétés par Moscou et Pékin que comme des déclarations bellicoses. Ce faisant, Moscou a pris le soin de prendre note, effectivement, du fait que rien n'empêche la Suède et la Finlande, pour ne parler que d'eux, de rejoindre l'Alliance, mais que pour peu que l'Alliance, maintenant, procède de la manière qui semble logique, à savoir mettre en place des installations militaires et des troupes dans ces pays, Moscou se devra de répondre, sachant que dans le contexte de la guerre en Ukraine, on a vu que Moscou savait prendre acte d'une situation, et pour peu que cette dernière soit de nature existentielle quant à la sécurité de la Fédération de Russie, Moscou saura réagir. Donc on peut parfaitement extrapoler cette analyse à ce qui se passerait dans l'éventualité d'une tête de pont otanesque dans la région asiatique. Pékin ne souhaite simplement rappeler les obligations de ce qui avait été mis en avant au début des années 70 lors de la visite de Kissinger à Pékin, à savoir que Taïwan, pour ne parler que de ce dossier, est une partie intégrale de la Chine, et ce faisant, toute tentative par des puissances extérieures à la région de remettre en cause ces traités et cette doctrine serait vouée à l'échec, et donc Pékin prendra ses responsabilités. Même si officiellement il a été mis en avant que la participation à ces quatre pays, donc encore une fois, Japon, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, portaient plutôt sur les allégations comme quoi la Corée du Nord était sur le point de réactiver ses activités portant sur un programme intercontinental, balistique et donc nucléaire. On sait très bien qu'en toile de fond, c'est Pékin qui est visé avant tout. Donc Pékin n'est pas naïf, et on peut penser que prétentions, ces déclarations intempestives, ces battements de poitrine sont pris en compte, que ce soit à Pékin ou à Moscou, comme malheureusement étant porteurs d'une perception qui laisse entendre que l'OTAN, non seulement dans le contexte ukrainien, n'a pas l'intention de jouer l'apaisement, de privilégier la diplomatie, mais qu'au lieu de cela, maintenant, on semble s'orienter vers une autre expansion de l'OTAN dans une région qui lui est complètement, si on s'en tient en tout cas au nom de l'Alliance Nord-Atlantique, complètement hors sujet. Donc, l'OTAN plus que jamais se révèle comme étant un outil que les États-Unis utilisent. Merci. Pour retarder leur perte d'hégémonie et donc, partant de là, l'émergence du monde multipolaire.
Merci, merci encore. Nous sommes en ligne avec Luc Michel. Monsieur Michel, le président Poutine a menacé de réagir justement si l'OTAN venaient à déployer des militaires et installer des infrastructures dans les deux pays, en effet, nordiques, à savoir la Suède et la Finlande. À quoi pourrait ressembler la réaction de la Russie, M. Michel, et quel en sera l'impact, notamment sur le cours des événements en Ukraine?
Écoutez, l'OTAN prétend qu'il assure la sécurité de ses membres, mais en réalité, il met cette sécurité en grave danger. En déployant des troupes aux frontières de la Russie, ils vont obtenir une réponse symétrique. C'est-à-dire que la Russie va déployer des troupes, mais va également déployer des armes nucléaires tactiques. C'est déjà ce qui se passe à Kaliningrad, dans l'enclave à côté de la Lituanie. C'est cela qui va se passer, puisque des accords viennent d'être conclus avec Loukachenko au Bélarus pour doter l'armée du Bélarus d'armes nucléaires stratégiques. Donc la sécurité des membres de l'OTAN va être gravement endommagée. Il faut constater que l'OTAN, évidemment, n'a qu'une réponse militaire. L'extension de l'OTAN à l'Est, ce n'est pas ça qui est l'important, ce n'est pas l'extension à la Finlande et à la Suède, puisque les armées de la Finlande, de la Suède, mais également de la Suisse, ne sont plus neutres et elles étaient déjà intégrées à l'OTAN avec du matériel OTAN. Ce qui est en jeu, c'est l'extension de l'OTAN à ce qu'on appelle l'OTAN du Pacifique, avec le Japon et l'Australie qui visent directement la Chine. La Russie, c'est l'adversaire immédiat, mais la Chine, c'est l'adversaire principal. C'est évidemment un militarisme excessif qui va appeler les gens de l'OTAN à la catastrophe, évidemment. Déjà en 2015, lorsque l'OTAN a déployé des armes nucléaires et des radars en Roumanie et en Pologne, elle a dirigé les missiles nucléaires russes directement vers le territoire roumain et vers le territoire polonais. En 2015, j'avais déclenché avec une tribune sur le média soutique. J'avais déclenché en Roumanie un scandale international, puisque j'ai fait la une de toutes les télévisions roumaines pendant 3 mois. J'avais expliqué aux Roumains, à qui on ne l'avait pas expliqué, qu'en choisissant d'accueillir les armements de l'OTAN, ils s'étaient désignés comme une cible des missiles nucléaires russes, ce qui avait évidemment refroidi l'opinion publique. C'est ce qui va se passer pour tous les nouveaux pays de l'OTAN, la Finlande, la Suède, mais également l'Allemagne, la Lituanie. À Kaliningrad, les Russes vont déployer des armes nucléaires qui pourront toucher jusque Amsterdam, Rotterdam, Berlin, bien entendu, et pas seulement Vilnius en Lituanie ou Varsovie en Pologne. Voilà ce qu'est l'OTAN. L'OTAN, c'est un facteur de guerre au niveau international et en particulier en mer Noire et en mer de Chine.
Merci infiniment, M. Michel. Maître de Velay, donc, alors, les pays de l'OTAN, lors de leur récente réunion, non seulement ont validé un renforcement de leur présence militaire sur le flanc oriental, mais aussi ont promis, en effet, des milliards de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a même tenté de faire croire que dans les mois à venir, l'Ukraine pourrait avoir un avantage militaire sur la Russie. Qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté de faire durer la guerre en Ukraine avec la multiplication, en effet, de la vente et des livraisons d'armements sophistiqués à l'Ukraine, Maître de Velay?
Je dirais qu'il y a deux approches, l'une qui semble brille dans la première. La première, bien sûr, c'est quelque part l'enrichissement du complexe militaro-industriel qui, dans le contexte d'un accord de prêt, Lend-Lease, hein, comme qui avait été utilisé durant la Seconde Guerre mondiale, ils se débarrassent de leurs arsenaux actuels, ce qui leur permettra de ensuite pouvoir justifier des demandes de budget auprès du Congrès. Donc tout ça, c'est une question de business, hein, pour les fabricants d'armes. Je noterai aussi que pour beaucoup de membres de la classe politique américaine corrompue jusqu'à l'os, c'est une manière aussi de blanchir de l'argent au travers de politiques officielles adoptées au sein du Congrès pour mieux ensuite récupérer les rétrocommissions. Sur un plan doctrinal, écoutez, je m'en tiens aux déclarations il y a quelques mois de cela de Lloyd Austin, qui avait lui-même déclaré que l'objectif était faire perdurer le conflit en Ukraine afin d'affaiblir la Russie. Donc les objectifs doctrinaux sont parfaitement établis. L'objectif, si des gens en doutaient encore, c'est de pressuriser la Russie, d'isoler le continent européen de la Fédération de Russie, créer un nouveau rideau de fer quelque part, et préserver l'aire d'influence des États-Unis en Europe. Et ce faisant, dans la façon dont ils voient les choses, en tout cas, fragiliser le pouvoir russe avec l'espoir d'un changement de régime en interne.
Merci encore. Alors, je ne sais pas si nous sommes toujours en ligne avec M. Michel. M. Michel, vous êtes toujours avec nous?
Je suis toujours là, monsieur.
Voilà. Alors, en deux, trois minutes concernant justement, parce que c'est la première fois que l'OTAN, en effet, qualifie la Chine de défi d'AI pour ses intérêts et sa sécurité. Donc, alors, cette nouvelle approche de l'OTAN, qu'est-ce qu'il va changer sur la scène des relations internationales et plus particulièrement dans les relations entre la Chine et les pays européens?
Écoutez, un militarisme exacerbé et des tensions supplémentaires envers noir dans toute l'Europe centrale et envers de Chine et envers du Japon. L'OTAN, c'est donc un facteur d'instabilité mondiale, mais c'est le but des Américains, puisque les Américains sont décidés à aborder en position de force la Troisième Guerre mondiale et donc cherchent ce militarisme. Qu'est-ce qui va arriver, bien entendu? C'est la fin du nouvel ordre mondial qui était basé sur une domination américaine, mais sur le commerce avec la Russie et avec la Chine. La Russie, c'est l'atelier du monde. On va rompre les relations commerciales, en particulier de l'Europe avec les Chinois, mais on rompt également les relations commerciales dans le domaine des hydrocarbures avec le principal fournisseur de l'Europe. C'est d'ailleurs le but des Américains. Les Américains ont un agenda double. D'une part, un agenda géopolitique militaire contre la Russie et la Chine, mais un agenda économique contre l'Europe. Les Américains sont donc gagnants à court terme, puis ils sont perdants à long terme. Je voulais expliquer en entête de cette émission, c'est une erreur stratégique majeure de vouloir faire la guerre en même temps sur deux fronts. Maintenant, tout cela va conduire à un monde instable et le monde va déboucher vers un monde multipolaire. Face à l'OTAN et à son pendant économique, le G7, il y a maintenant l'Organisation de coopération de Shanghai, Moscou, Pékin et l'Iran. Il y a les BRICS qui sont en train de s'étendre, mais il y a également la revitalisation des États non alignés, l'héritière de la Yougoslavie, de Tito, de l'Égypte de Nasser et de l'Indonésie, de Sukarno, dans les années 60. Vous avez vu que l'Indonésie organise le prochain G20 en novembre et elle a invité en personne Vladimir Poutine qui a l'intention de s'y rendre. C'est une gifle qui est adressée par ce qu'on appelait jadis le tiers-monde, qu'on appelle aujourd'hui le monde multipolaire, à ce monde occidental arrogant qui ne comprend pas que le cycle géopolitique de sa domination absolue est terminé depuis les années 2015.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, maître Arnaud Develay, juriste international, analyste politique depuis Damas. Merci infiniment d'avoir été nos invités pour cette édition du débat. Merci beaucoup.
À bientôt.
À très bientôt.
Merci à
vous. Voilà, merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Chers amis auditeurs, merci d'être avec nous. Bienvenue au programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. le ministre iranien des Affaires étrangères invité en Ukraine. À peine 24 heures après le sommet de la Caspienne à Ashgabat, où les présidents iraniens et russes ont parlé d'un approfondissement des liens stratégiques, les deux ministres iraniens et ukrainiens ont eu un contact téléphonique. Lors d'un appel téléphonique, jeudi 30 juin, entre le ministre iranien des Affaires étrangères et son homologue ukrainien, les deux parties ont discuté de certaines questions d'intérêt commun. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a réitéré la position de principe de l'Iran dans son opposition à la guerre. Il a également évoqué la récente rencontre entre le président iranien Ebrahim Raisi et son homologue russe Vladimir Poutine au Turkménistan et ses entretiens avec le ministre russe des Affaires étrangères, soulignant la volonté de l'Iran de trouver une solution diplomatique et faire de bons efforts pour mettre fin à la crise ukrainienne. Amir Abdollahian a également déclaré que les relations entre l'Iran et l'Ukraine ont toujours été fondées sur l'amitié, le respect et les intérêts mutuels au cours des trois dernières décennies et que l'Iran est prêt à participer à l'accord visant à ouvrir un corridor pour le transport de céréales en mer Noire. Le ministre iranien des Affaires étrangères a également invité son homologue ukrainien à se rendre à Téhéran. Pour sa part, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, a remercié la République islamique d'Iran pour son opposition à la guerre. Il a déclaré que l'Ukraine est prête à recevoir toute aide ou soutien politique pour mettre fin à la crise dans son pays. M. Kuleba a également annoncé que l'Ukraine est prête à développer ses relations avec l'Iran, notamment dans les domaines de l'agriculture et des céréales. Il a qualifié de constructif la poursuite des discussions entre Téhéran et Kiev en vue d'élargir les liens bilatéraux. Il a décrit la dernière situation de conflit dans son pays et a remercié l'Iran pour ses efforts précieux pour mettre fin à la guerre. M. Kuleba a ajouté qu'en raison de l'état de guerre, les conditions des pourparlers avec la Russie étaient difficiles. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a également invité M. Amir Abdollahian à se rendre à Kiev. Un méga navire explose à Dubaï. Les médias yéménites ont rapporté vendredi 1er juillet un incendie sur un navire transportant des voitures dans le port de Dubaï, aux Émirats arabes unis. C'est comme en janvier dernier, lorsqu'un Saral avait ciblé le port émirati avec ses combinaisons missiles-drones. Le directeur du port de Nishtuna au Yémen, Saïd Kris, a déclaré qu'un navire transportant des voitures nommé Mohyeddin, appartenant à un homme d'affaires indien, a pris feu dans le port de Dubaï. Selon le rapport, les voitures du navire appartenaient à Saas Abad al-Jadahi, un homme d'affaires de la province yéménite al-Mahra. Selon le responsable du port de Nishtun, le navire était en route vers ce port de l'est du Yémen lorsqu'il a pris feu. Concernant la cause de cet incendie, certaines sources affirment que le navire a pris feu mercredi en raison de la dégradation des connexions électriques. Cette situation intervient alors qu'un navire en provenance du port de Ras Al Tanoura en Arabie Saoudite a jeté l'ancre le mercredi 29 juin dans le port de Shabwa au Yémen pour voler le pétrole du pays. Le navire Isabella est entré dans le port d'Al-Nashima, dans la province yéménite de Shabwa, depuis le port de Ras Al Tanoura en Arabie Saoudite, pour voler à nouveau le pétrole yéménite. Selon Al-Masira, environ 100 000 tonnes de pétrole brut yéménite, soit l'équivalent d'un million de barils, devraient être chargées par ce navire saoudien. La valeur du pétrole volé par ce navire atteint 114 millions de dollars. Au cours de la semaine écoulée, les médias yéménites ont rapporté que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis continuent de voler le pétrole et le gaz yéménite en violant le cessez-le-feu établi par les Nations unies. Plus récemment, un navire émirati a volé 400 000 barils de pétrole yéménite. Il y a deux semaines, un navire géant a quitté le port d'Al-Shahr dans la province yéménite de Hadramout le 11 juin, après avoir pillé plus de 2 millions de barils de pétrole brut d'une valeur approximative de plus de 270 millions de dollars, soit 162 milliards de rials yéménites, sur la base du prix du pétrole sur le marché mondial. « la fuite des pétroliers israélo-américains du nord d'Irak. Apparemment, après le Schlumberger, c'est au tour d'autres compagnies pétrolières sionistes de fuir. Les médias ont rapporté que, suite à l'ordre du ministère irakien du pétrole, trois grandes compagnies pétrolières américaines avaient quitté la région du Kurdistan irakien et que cette mesure avait mis les relations entre Bagdad et Erbil en veilleuse. Le ministère irakien du pétrole a récemment fixé un délai de 3 mois dans un message adressé à la compagnie pétrolière nationale du pays et a averti tous les entrepreneurs opérant en Irak de conclure leur contrat avec le Kurdistan irakien avant la fin de la période annoncée. Selon les médias irakiens, le ministère du pétrole a prévenu qu'il mettrait sur la liste noire les entreprises coupables qui n'obéiraient pas à cet ordre. Des sources irakiennes, dont le journal Al-Sabah, ont récemment rapporté qu'à la suite de la publication de cet ordre ministériel, les trois principales compagnies pétrolières américaines, Baker Hughes, Halliburton et Schlumberger, ont cessé leurs activités dans la région du Kurdistan irakien qu'ils sont quittés. Mi-février, la Cour fédérale irakienne a souligné que l'exportation du pétrole du Kurdistan irakien est illégale en raison d'un manque de coordination et de l'absence d'autorisation du gouvernement central irakien. La Cour fédérale irakienne, la plus haute juridiction du pays, avait déclaré que la loi de 2007 du Parlement du Kurdistan concernant l'organisation du secteur pétrolier et gazier était contraire à la constitution irakienne. Cette cour a contraint le gouvernement d'Erbil à remettre l'ensemble de sa production pétrolière au gouvernement fédéral ou, en d'autres termes, au ministère fédéral du pétrole. L'Irak est le deuxième exportateur de pétrole de l'OPEP et vend environ 3,5 millions de barils de pétrole par jour. Ce montant fournit près de 90% du budget du gouvernement irakien. En revanche, la région du Kurdistan d'Irak vend 400 000 barils de pétrole par jour et s'est engagée à donner 250 000 barils de pétrole par jour au gouvernement central de Bagdad en échange des salaires des fonctionnaires kurdes et des forces Peshmerga. Cisjordanie, les commandos palestiniens de retour. Après une pause de quelques semaines que les sionistes ont tenté de mettre sur le compte de leur propre capacité à contenir la crise, jeudi 30 juin à Naplouse, une opération commando a transformé une réunion électorale de colons en cauchemar. Un général sioniste a failli être liquidé et des colons blessés. La revendication par les brigades Al-Rots, la branche armée du djihad islamique de la Palestine, de l'attaque par balle qui a visé un convoi de colons israéliens qui se rendait sous la protection des militaires israéliens sur le tombeau de Youssef à l'est de la ville de Naplouse, reflète une grande importance, notamment l'escalade du mouvement en Cisjordanie et le début d'opérations militaires intensives et meurtrières dans ces différentes régions, en particulier à Naplouse ou encore à Jabal al-Nahr, qui était la principale capitale des cadres du mouvement Fatah et aussi la ville de Jenin. Il convient de noter que la déclaration de la brigade de Naplouse a confirmé que ses combattants étaient capables de tendre une embuscade aux forces de l'armée israélienne et aux colons. Une source haut placée du mouvement du djihad islamique de la Palestine a confirmé que la Cisjordanie connaîtra dans les semaines et les mois à venir une série d'opérations offensives visant les forces d'occupation et ses colons et qu'il existe une grande coordination entre les dirigeants sur le terrain des brigades du djihad et de leurs homologues des brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Une coordination dans l'arène de la résistance à interne qui revient avec force et qui comprend un soutien en armes, en formation et en argent dans la plupart des cas. L'escalade des opérations de résistance contre les forces d'occupation israéliennes et les colons ces dernières semaines à Jenin et maintenant à Naplouse et Jabal al-Nahr est devenue une casse-tête chronique pour les forces de sécurité israéliennes, car l'utilisation d'armes signifie que l'étape de l'utilisation de coups de couteau est désormais en marche rapide. La deuxième intifada armée a éclaté à Jenin et à Naplouse, et très bientôt à Hébron, Tul Karem et le reste des autres villes occupées, et cela rendra l'occupation très coûteuse. Voilà, nous voici au terme de ce programme. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine fois.